C'est pourquoi la France, entre autres, est située au même rang que la Turquie dans sa pratique pénitentiaire et justicière, parce que, effectivement, sur les 60 000 détenus qu'il y a en France, environ 30 000 relèvent de la supposée innocence. Tant qu'on n'est pas condamné, on est supposé innocent. Donc, il y a 30 000 individus qui sont en détention préventive, et donc supposés innocents, puisqu'ils ne sont pas encore condamnés. Sur ces 30 000, 6 000 dans tous les cas seront reconnus soit innocents, soit bénéficieront d'un sursis, soit d'un non-lieu, soit d'un acquittement, dans tous les cas. Il y a donc 6 000 individus qui sont incarcérés en France, bonjour l'état de droit, bonjour la Constitution française, qui est justement située au même rang que la Turquie, sur le rapport du tabloïd européen, hein, dans sa pratique pénitentiaire et judiciaire. Et bien voilà, il y a 6 000 individus qui, dans tous les cas, sont innocents. Ça, c'est pour illustrer ce que tu disais. Il y a le ticket de métro, le petit abaratalogisme, je te le citais en chiffres, 60% de la population pénale relève de la délinquance accidentelle. Ce n'est qu'un accident. Mais alors, qu'en faire? Et au début de notre propos, il y a 1 heure environ, par quoi remplacer la prison? Eh bien, on ne la remplace pas. On ne remplace pas un mal par un autre mal, on l'abat. Dès lors où le droit entrera en prison et a considéré déjà la détention préventive, qu'on appelle aujourd'hui la mise en examen, où l'état de droit français signale que tout détenu placé en détention préventive est supposé innocent, eh bien lorsque cette pratique deviendra effective, alors là je crois qu'on aura déjà fait un grand pas. Et je crois que la prison sera pris un méchant coup dans la gueule. Parce que le droit sera pénétré. Parce que la démocratie, dans ses dérives, ses dérapages, produit le fascisme. 1933, élection d'Hitler, nous en fait témoignage. Hein. Et donc, effectivement, dans ces espaces pénitentiaires, c'est un espace fasciste. Un espace fasciste où, dans l'échelle de punition, ça va de la simple réprimande, où on passe au prétoire, ça vous en avez entendu parler, le prétoire, le tribunal interne dans la prison, où ne siègent pas des magistrats, siègent les autorités de la prison, qui rendent des décisions de justice au demeurant, puisqu'ils allongent la peine.
Sans en avoir la compétence.
Ben oui, puisqu'ils ne sont
Bien
pas des
sûr.
magistrats, c'est ce que je signale justement. Donc, pratique fascisante, s'il en est. Et la sanction va de la simple réprimande pour un acte délictueux à l'intérieur de la prison qui a semé un trouble X, Y, Z, de la simple réprimande jusqu'à la peine de mort. On essaie de passer les murs de la prison, on est exécuté sans jugement. Ça, c'est une pratique. Voilà, qui existe en France et ailleurs, mais là nous parlons de l'Hexagone. Alors moi, tu sais, dans un débat, ça se passait dans la banlieue de Metz, à Jarny, et il y avait au premier rang, il y avait tous les parents d'enfants qui avaient été assassinés, violés, j'étais une vingtaine. Ils m'avaient prévenu par télégramme parce qu'ils pensaient que je me faisais le défenseur, le Zorro des pauvres victimes de la société que sont les détenus. Et je leur dis pas du tout. Pas du tout, je ne vous proposerai pas par quoi remplacer la prison, pas plus que j'ai des enfants également. Je crois que viscéralement, si on s'attaquait à mes enfants, eh bien, je deviendrais moi-même justicier, c'est évident. C'est évident ce que nous enseigne même la philosophie, Nietzsche en l'occurrence, lorsque le serpent dans la douleur te mord les tripes, tu vas prendre le serpent en pleine main, lui prendre la tête en pleine dent et lui arracher la tête. Mais ça, c'est une réaction viscérale. Est-ce que, judiciairement et socialement parlant, est-ce que c'est la pratique? Parce que vous vous dites, il faut tuer tous ceux qui ont tué des enfants. Soit, ça, oui, je serai prêt à l'admettre viscéralement. Hein. Mais nous parlons de justice sociale, je crois, et non pas de réaction, de réactivité à un événement donné, et aussi douloureux soit-il. Bon, vous parlez des enfants. Mais moi, je voudrais exécuter également les proxénètes, parce que je n'aime pas les proxénètes. Je n'aime pas cet esclavagisme. Je voudrais également que l'on exécute également les droguistes, pas les dealers, non, à un autre niveau, quand même, les capots. Hein. Bon, parce qu'ils empoisonnent la jeunesse, pourquoi pas. Et moi, je voudrais qu'on exécute les voleurs d'autoradio, parce que, merde, ça fait 10 fois qu'on me pique comme un autoradio. Bon, alors là, vous allez ouvrir les charniers. Déjà, en ce qui concerne les assassins d'enfants, il se trouve que les crimes et délits sexuels représentent environ le quart de la population pénale. C'est-à-dire, il y a environ 15 000 cas de délinquance ou de crimes sexuels en France. Ça fait donc 15 000 morts. Il va falloir ouvrir des charniers, parce que si on y associe les proxénètes, on y associe les voleurs d'autoradio, on y associe les voleurs de moto, parce que chacun aura bien sûr son accroche à vouloir exécuter l'autre. Et là, je reprendrai sur ce que disait Vian, tuons tous les affreux et on sera que des beaux entre nous. Mais là, il faut faire attention, parce qu'il y a un certain Adolphe qui s'en est inspiré de ça, puis ceux qui avaient nébusqué, éteint, plus ou moins basané, il convenait d'éliminer puisqu'il n'était plus dans la norme. Donc, je crois que la justice sociale est là pour réguler ces penchants champ naturel, dirais-je, à la vengeance. Lorsqu'on a mal, on veut faire mal. Est-ce pourtant la justice? Bien évidemment que non.
Ouais, puis il faut pas se laisser prendre en otage aussi par le. Bon, tu parles d'un quart de la population pénale pour les crimes sexuels, mais c'est toujours effectivement ça qu'on présente
Et comme
comme.
bien avant, bien sûr.
Alors que la plupart des personnes qui sont en prison, ben c'est les trois autres quarts, sont là pour des questions de gestion de l'ordre social. Et puis, il y a aussi toute une délinquance, qui est aussi une petite délinquance, qui aurait plutôt tendance à être dans le 16e arrondissement que dans le 20e, par exemple, qui, elle, ne rentre pas du tout dans les cadres de loi. Toute la délinquance financière, c'est aussi une forme de délinquance qui produit bien plus de mal à l'économie de la société que le
Bien
vol
sûr.
d'autoradio ou la vente de barils de
Bien sûr.
shit.
Tu es contre aussi l'emprisonnement des chefs d'entreprise qui trafiquent?
Bien sûr.
Ouais.
Dans la pratique actuelle.
Et des présidents de la République qui escroquent.
Mais bien sûr, c'est la prison en tant que telle, c'est-à-dire cet appareil d'éradication de toute dimension humaine et sociale. Il faut repenser ça. Il faut trouver un autre appareil pour réguler le social. Au XVIIIe siècle, et c'est pas au XVIIIe siècle, c'est bien avant, qu'ils se sont battus pour éliminer cet appareil qui était la torture, parce que la sanction à un événement donné, c'était la torture, exposée en place publique, on écorchait à vif les individus, etc., etc. C'était la pratique courante, la prison n'existait pas. Et puis Tocqueville s'est amené dans sa besace un système de rédemption par le process de rédemption, le rachat du péché par la souffrance, et on a créé la prison. La prison serait rédemptrice et serait à traiter l'individu, non pas tant sa faute, l'individu lui-même, à le traiter, puis à le replacer dans le contexte social pour qu'il se réhabilite, il se réinsère. Et dans tous les cas, le référent, il est biblique. Comment, en 2003, on a encore besoin de référent biblique, alors que la preuve a été faite que l'individu placé en détention dans le temps déterminé de la sanction qui était prononcée contre lui, intériorise tous les effets néantisants, tous les effets mortifères de la prison, et lorsqu'on ouvre les portes de la prison, il est évident qu'on ne sort pas de prison, et c'est la conclusion de mon bouquin, c'est entre autres, on sort avec, on sort avec. Et le process qui est inéluctable, c'est d'extériorisation de ces pulsions négatives que l'on a intériorisées pendant le temps déterminé de la détention. On sort avec. Ça produit la récidive, inévitable, inévitable. Et on n'a qu'une préoccupation, lorsqu'on sort de prison, on n'est pas libéré. On sort avec la problématique, et la problématique qui est induite pour l'essentiel par la négation de son individu, dans sa dimension humaine et sociale, et on nie le groupe, c'est évident. Donc cet appareil, il convient d'en changer. Mais le politique ne va pas en changer parce que cet appareil lui sert. C'est un appareil politique.
La seule chose qui a un petit peu changé, qui a un peu évolué, mais je ne sais pas si c'est une évolution à vos yeux, c'est qu'on se pose un peu plus la question de la situation de l'État dans les prisons après les quelques dénonciations des dernières années, là, notamment le médecin-chef de la santé, etc.
Non, je suis en désaccord. Hein. Le médecin-chef de la santé n'a pas terriblement apporté. Oui, c'était pour les VIP en particulier, mais pas trop et pas tant pour le système lui-même. Elle a fonctionné pendant plus de 7 ans à être médecin-chef de la santé, et c'est au bout de 7 ans, par je ne sais pas quel événement, elle a dévoilé, je me souviens moi d'une émission, et c'est assez signifiant, tu vois, à la suite, ou plutôt avec son livre, du médecin-chef de la santé, c'était les tapis Proust, pas l'écrivain, de pas Marcel, bien sûr, l'autre, qui sont venus parler de la prison, mais il n'y avait que des VIP. Il n'y avait pas, non pas le petit manant ou les sauvageons, non, il n'y avait pas les sauvageons. Ou bien, si truc, là, hier, il a parlé, justement, le psy de service, des sauvageons. Non. Ce qui rend l'individu sauvageux, ce sont les conditions sociales, ça c'est évident. Il n'y a pas de déterminisme à être délinquant, c'est évident. Et lorsqu'on me pose la question connement, et j'insiste sur la connerie justement de la question, par quoi remplacer la prison? On ne la remplace pas, on la bat. Moi je vois, j'ai été incarcéré en 1962 et j'ai connu des gens dans les années 50, ça n'a pas changé, l'esprit n'a pas changé, le principe d'emprisonnement n'a pas changé, c'est toujours le process rédempteur du rachat du péché par la souffrance, ça n'a pas changé, même s'il y a de l'eau chaude aujourd'hui au robinet, rien n'a changé.
En fait, je ne sais pas si dans l'opinion ou une partie de l'opinion ça allait dans ce sens ou pas, j'ai eu l'impression que ça semait un peu de doute pour certains qui se disaient, bon, sans se poser plus de questions, un tel a commis un délit, donc un tel doit faire une peine, c'est pas la peine d'en rajouter à cette peine doit être stéréotypée, et voilà. J'ai eu l'impression que ça a été le raisonnement des dernières années.
Si tu permets, à la suite des... pas seulement ces dernières années, ça fait 30 ans de ça. Ça fait 30 ans de ça qu'un bourgeois éclairé, qui a pour nom Giscard d'Estaing, fraîchement élu président de la République, et 1974, mutinerie des prisons, 180 établissements pénitentiaires en France, il y en a environ une centaine qui ont brûlé. Il y a eu des manifestations monstrueuses qui ont produit 8 morts, des centaines de blessés, des bras cassés, des jambes cassées, des crânes éclatés. Il fallait voir ça, la répression comme s'est exercée. Étant donné que le ministre de l'Intérieur lui-même, l'ineffable Poniatowski, à l'époque, disait tout détenu surpris hors de sa cellule aux heures où il doit se trouver en cellule sera considéré en état d'évasion et sera exécuté. Vous imaginez la répression, lorsque vous voyez les forces de répression s'exercer sur des étudiants ou des ouvriers, imaginez dans un espace de non-droit, et j'y étais, donc je peux vous en parler, dans un espace de non-droit, ce que ça peut donner. Et il y a Giscard d'Estaing qui avait dit, en serrant la main d'un détenu dans sa démarche démago, le Giscard avait donc dit, la prison doit être la privation de liberté et rien d'autre. Mais ça, ce sont des mots. Ça a toujours été rien d'autre. Tout autre. Tout autre que la privation de liberté. C'est l'éradication totale, et j'insiste bien là-dessus, ça paraît être un gargarisme intellocrate de merde, mais j'insiste bien là-dessus, l'éradication totale de la dimension humaine et sociale. La prison. Voilà ce qu'est la prison. Et ne prétendez pas en enfermant des gens que vous allez régler le problème du comportement qui produit la délinquance ou la criminalité. Non, ça ne fait que l'ajouter. Alors, j'entends une voix de la salle, oui, mais par quoi la remplacer? Eh bien, des gens me posent la question, tu as sûrement la réponse. Moi, je n'avais pas la réponse. Et quand bien même je l'aurais, je ne te la donnerai pas parce que je suis aussi fumier que le dernier des fumiers des humains. Si j'avais la réponse, j'essaierais d'avoir le pouvoir qui va avec. Donc, je n'ai pas de réponse. Je n'ai que des questions et des combats à mener.
Ben, merci Charlie Bauer. On rappelle que le livre que tu as écrit, c'est...
Qui n'est plus édité parce que politiquement incorrect.
Ah bon, ils n'ont pas voulu le rééditer.
Le Seuil, depuis l'année dernière, n'édite plus le livre. Donc, ne le cherchez pas dans les bonnes ou moins bonnes librairies. Il n'y est plus.
Fracture d'une vie.
Fracture d'une vie, bien qu'il ait été, il a eu un succès assez phénoménal parce qu'il est sorti en 90 par un effet mesrinomaniaque, soit pour une part, mais d'autre part par... l'explication, et puis je crois un bon outil d'étude sur aussi bien l'appareil, l'enfermement, la censure, la résistance, la revendication, tout ce qui fait, je crois, qui anime notre quotidien, même si on n'est pas dans la prison carcérale, dans la prison cérébrale où nous sommes plus ou moins coincés, tout un chacun, je crois que ça apporte non pas des réponses, mais des réflexions et des questionnements.